Les femmes au fil de l'histoire.
Une coproduction Marche mondiale des femmes et Radio BLV.
Dans notre dernière chronique, nous avons quitté les femmes à la Renaissance. Elles doivent se défendre pour s'imposer au risque de leur vie. Et souvenez-vous, les sorcières sont brûlées. Un autre combat les attend. L'effacement dans notre langue de sa forme féminine. Ce sera le sujet de cette huitième chronique. L'histoire de la masculinisation de la langue française de la fin de la Renaissance jusqu'à nos jours. Autrement dit, l'invisibilité des femmes dans la langue.
Actuellement, me semble-t-il, c'est encore à l'ordre du jour.
Oui, et il se dit encore des choses incroyables. Et écoute bien, Françoise, à l'Académie française.
Wow !
Ce serait un péril, oui, un péril pour la langue française de la féminiser.
Mais rappelons tout d'abord, il ne s'agit pas de féminiser la langue. Il s'agit de lui rendre sa part de féminin qu'on lui a enlevée, pour rendre les femmes invisibles dans la structure de la langue. Notons que nous sommes les plus en retard des pays francophones dans ce travail de reféminisation de notre langue.
Et pourquoi une telle hostilité en France depuis un demi-siècle ?
Pour comprendre, il faut interroger l'histoire et les grands mouvements historiques dans lesquels est inscrite la perte de visibilité des femmes. Les femmes vont progressivement perdre leurs droits à partir de la fin du Moyen-Âge. Auparavant, elles ont accès à tous les corps de métier. Écoutez bien. Elles sont médecines, administresses, prévôtes, maréchales, maréchaleux. Elles administrent leurs biens. Elles sont commerçantes dans les bourgs. Elles rendent la justice. Mais malgré une résistance acharnée des femmes, leurs droits vont petit à petit être rognés. Le clergé tout-puissant s'y emploie. Dans les universités, ils enseignent que la femme est le pire de tous les maux. M-A-U-X. À la naissance de l'imprimerie, les débats sur la langue revêtent une grande importance et elles suscitent beaucoup de polémiques. C'est à la création de l'Académie française que l'élite intellectuelle s'empare de cette question et se déchaîne.
Tu veux dire que les académiciens se sont prononcés ouvertement contre le féminin dans la langue. Mais comment s'y sont-ils pris ?
Le grand grammairien Vaugelas et une kyrielle d'acolytes s'emploient à faire de la langue française une langue noble.
Digne des hommes,
disent-ils. Ainsi, le féminin devient muet, car, je cite,
« Il est aussi fâcheux à gouverner que les femmes. Le masculin est de plus grande noblesse, voyons. »
Encore ceci.
« Le genre masculin est réputé plus noble que le féminin à cause de la supériorité du mâle sur la femelle. »
Eh oui, les propos les plus sexistes ont circulé. S'en est suivie une bataille de plus d'un siècle pour faire disparaître les femmes de la langue. Il ne faut pas croire que les femmes se sont laissées faire.
Alors ce n'est pas une querelle de linguistes, c'est bien une affaire politique.
Oui, la masculinisation de la langue s'accompagne d'un déclin des droits des femmes dans toutes les instances de la société. Et ça atteint son apogée avec le Code Napoléon en 1804. Ce code est tout simplement une catastrophe pour les femmes, un monument de misogynie.
Alors, quand les féministes militent pour que la langue retrouve sa forme féminine, c'est pas une lubie ni une question accessoire. C'est la lutte contre une société patriarcale qui organise la domination des hommes sur les femmes.
Et oui, la transformation de la langue française par l'élite réactionnaire, on peut le dire, est très réfléchie. Voici un exemple. Dans notre langue, le neutre qui englobe le féminin et le masculin est représenté par le masculin. Une nouvelle règle soi-disant anodine. Est-elle réellement anodine ? Écoutez une des nombreuses expériences faites par des universitaires pour tester l'influence de cette règle dans notre façon de penser. Quand on demande à un groupe d'enfants ou d'adultes, dans un premier temps, de donner leurs acteurs préférés, leurs réponses contiennent très peu de femmes. Si dans un deuxième temps, on leur demande de nommer leurs acteurs et actrices préférées, leurs réponses contiennent beaucoup plus de femmes. Ceci est un des nombreux exemples d'une recherche universitaire visant à montrer que le neutre masculin n'active pas chez les personnes une représentation du féminin. Les femmes disparaissent presque complètement. On en déduit alors que le prétendu neutre masculin n'est absolument pas neutre. La conséquence de cette masculinisation de la langue est une disparition des femmes dans notre façon de penser, et cela à notre insu, sans qu'on s'en rende compte.
As-tu d'autres exemples de disparition du féminin ?
Bah oui, écoutez. Une femme ne peut plus répondre à la question « Êtes-vous malade ?» par « Je la suis », comme ça se faisait avant le 17e. Mais par maintenant, on le dit « Je le suis ».
C'est fou quand même.
Encore un autre exemple. Il y a ce fameux accord de proximité. Dans une énumération, on accordait le verbe et l'adjectif avec le dernier nom cité. Maintenant, on apprend à l'école...
que le masculin l'emporte sur le féminin.
Les académiciens ont enfoncé le clou en disant...
quand deux genres se rencontrent, c'est le plus noble qui l'emporte.
Voici un exemple très parlant qui vient des féministes du Québec, qui sont bien plus en avance que nous. 50 femmes et un chien sont montées dans l'avion. Comment accordez-vous « monter » ? Eh bien, si vous êtes comme nos académiciens, vous écrivez « monter » et « S », même si le chien est un chihuahua.
Un million de femmes et un pou sont montées. ES, eh oui, on voit bien le ridicule de cet accord sur lequel nous ne sommes pas d'accord du tout, du tout.
À noter que les Québécois et les Québécoises sont très en avance sur la reféminisation de notre langue. Allez, un dernier exemple. Les titres et métiers changent de genre au profit du masculin. On ne dira plus autrice, poétesse, médecine, peintresse, comme cela se faisait couramment. Tiens, connaissez-vous d'ailleurs, tout le monde, le féminin de vainqueur ?
Vainqueur, vainqueur.
Bah, bien sûr que non, il a disparu.
Eh oui, bon, refuser de nommer, c'est refuser de donner une place, de rendre visible, c'est exercer un pouvoir de domination. Que notre langue retrouve les deux genres me semble essentiel. Comment faire ? Comment faire pour redevenir vainqueuse alors ?
Eh bien, le premier acte de résistance, c'est penser à féminiser les noms et les adjectifs dans leur forme écrite. Voisin, voisine, postulant, postulante, il faut choisir une façon de faire, le point puis E, puis un point ou la majuscule. Il y a différentes formes de féminisation. Employer autant que possible un épicène, comme par exemple le mot « personne » qui englobe le féminin et le masculin.
Ou le mot « enfant » par exemple.
Voilà. Comme deuxième acte de résistance, on peut redonner au nom de métier et titre leur forme féminine perdue. Une chef, une chef-e.
Deux F-E.
Voilà. Une présidente, une pilote, une éboueuse, une chauffeuse ou une chauffeur, une philosophesse, une mairesse. Il faut savoir que c'est en 1994 que l'Académie française reconnaît enfin les titres et les noms de métiers au féminin.
Wow, quelle audace !
Quelle audace, messieurs les académiciens !
Un troisième acte de résistance. Le masculin et le féminin à égalité dans l'accord de proximité. Chantal nous a apporté tout à l'heure, par exemple, des bonbons et des madeleines exquises. Aucune féministe ne vous sautera dessus si vous dites « Chantal nous a apporté des madeleines et des bonbons exquis ». Voilà, c'est l'accord de proximité. Attention à penser aussi à la règle de majorité. Hein. Sinon, on en revient à 1 million de femmes et un pou sont montées et S, si c'est l'accord de proximité. Donc, tout bien jongler aussi avec la règle de majorité.
Osons, oser, c'est une belle histoire de bataille menée par les femmes. C'est tout sauf accessoire. D'ailleurs, il faut voir l'expression des garçons et des filles quand on énonce cette règle à l'école. Aux antipodes les uns des autres, forcément, c'est comme un patrimoine injuste, légué de génération en génération. Je dis bataille, car c'est une bataille, une lutte contre l'oppression, contre le patriarcat, et c'est une bataille en cours.
Et
En cadeau, un poème écrit par Marie-Josée en 2020 à propos de l'affichage « Bonne année à tous !» dans certaines villes de France, par certains maires.
Le titre, c'est « Où sont-elles toutes ?» Au creux de notre société, vit, à n'en pas douter, toute une compagnie de personnalités qu'en premier conseiller, vous semblez ignorer. Ne pas les distinguer, ne les voir qu'à moitié. Est-ce un fâcheux déni? Est-ce une maladresse? Dans un cas comme dans l'autre, vous, monsieur le bourgmestre, venez de manquer fort de simple délicatesse. Avons-nous donc omis, avez-vous donc omis, celle qui nous intéresse? Oui, bonne année à tous. Oyez notre impatience, rien qu'à tous, arrogance ou bien insuffisance, toutes nos sœurs bannies. Comment l'admettrait-elle? Clairement, ce n'est pas qu'une affaire d'orthographe. Avec nous, militantes, toutes les femmes paraphent. Il faut faire avec toutes, il faut faire avec elles. Merci à vous toutes et tous. À la prochaine fois pour découvrir les femmes au fil de l'histoire des 17e et 18e siècles. Merci.
Les femmes au fil de l'histoire.
Une coproduction Marche mondiale des femmes et Radio BLV.